Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Marie Vallogne.
Bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, l'émission où l'on parle publicité, stratégie de communication et actualité des marques. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général de l'Union des marques. Avec lui, nous nous pencherons sur la situation des annonceurs, ceux qui ont ralenti leur communication pendant la crise du coronavirus, et puis ceux qui, à l'inverse, ont décidé d'adapter leur discours. Les marques doivent-elles s'engager davantage aujourd'hui? Quelles sont leurs perspectives dans le contexte actuel? Jean-Luc Chétrit répondra à nos questions. Notre chroniqueuse Charlotte Bricard reviendra sur la dernière campagne de Diesel, Diesel qui dévoile une nouvelle icône transgenre à l'occasion du mois des fiertés. Et puis enfin, notre Zoom sera consacré à la reprise des tournages publicitaires. Après une période à l'arrêt, comment vont-ils s'organiser avec les nouvelles normes sanitaires? Réponse tout à l'heure avec Florence Jacob, la présidente de l'Association des producteurs de films publicitaires. Voilà le programme, mais tout de suite, retour sur les news de la semaine dans le monde de la pub.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque week-end, le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Marie.
Et on accueille pour les news Julien Rizzo.
Bonjour Marie.
De la rédaction de BFM Business. Julien, vous avez repéré un nouveau film de super-héros. Alors, il ne s'agit pas de Superman, ni de Batman, ni des Avengers, mais de Babybel.
Et oui, dans sa nouvelle campagne, la marque met les mini Babybel au cœur d'un film d'action. Alors, une voix off nous décrit un monde futuriste où la tentation de consommer est omniprésente. On peut y voir de nombreux magasins à l'effigie de nourriture calories comme des pizzas, des donuts ou des glaces. Et pour sauver les habitants de ce monde, la Ligue des super-héros Mini Babybel va intervenir. Je vous laisse découvrir un extrait de ce film.
Nous vivions dans un monde où tout était fait pour donner envie. La tentation était partout. La vie semblait douce, en apparence. Nous avions besoin d'un peu d'aide. De l'aide pour réaliser qu'une autre vie était possible.
Et donc les mini Babybel qui viennent aider les consommateurs à opter pour une alimentation plus saine. Alors la campagne reprend tous les codes d'une bande-annonce de film. Elle nous donne le nom du réalisateur puisqu'il s'agit de Richie en calcium, produit par Frenchies Productions. Et nous avons la fin des critiques des médias, dont une qui indique que ce film est une source de protéines et de calcium. Sans oublier le nom de la campagne, Rejoignez les forces du bon, qui, vous l'aurez compris, fait référence à Star Wars. Une campagne signée Havas Chicago en partenariat avec Solab.
De son côté, Yorkshire Tea s'engage contre le greenwashing.
Oui, après 5 ans de travail, la marque de thé est parvenue à fabriquer un produit neutre en carbone, une fierté pour la marque anglaise. Et pour le promouvoir, la campagne associée est plutôt étonnante. On y voit en effet Andrew Hutchinson, l'illustrateur du packaging d'été Yorkshire, peindre un nouveau pack avec comme fil conducteur l'écologie. Il peint des panneaux solaires sur le toit de la ferme centrale. Il ajoute une voiture électrique et transforme les joueurs de cricket en apiculteurs. Résultat, le nouveau packaging représente un véritable paysage écologique, très loin de l'authenticité du paysage britannique, symbole de la marque. Alors à la fin, l'illustrateur finit donc par renoncer à ce nouveau dessin et ajoute seulement au dos de la boîte un logo indiquant neutre en carbone. Un spot engagé contre le greenwashing produit par l'agence Lucky Generals.
Et enfin, WPP prend part contre la lutte contre le racisme.
Oui, le groupe a publié cette semaine ses actions pour lutter contre l'injustice raciale. Ces engagements font suite à l'appel au changement dans l'industrie publicitaire, un appel lancé par 1200 professionnels noirs. Ces professionnels demandent aux agences américaines de prendre 12 mesures pour mettre fin au racisme systémique dans l'industrie, avec par exemple la création d'un comité de la diversité dans chaque entreprise. Et c'est dans ce contexte que le groupe WPP s'engage à appliquer ces 12 mesures. Il va ainsi effectuer un examen sur ses pratiques d'embauche, de rétention et de promotion. Et surtout, WPP va investir 30 millions de dollars au cours des 3 prochaines années pour financer des programmes d'inclusion des minorités et pour soutenir des associations contre le racisme. Marc Ride, le PDG de WPP, précise que le groupe doit, je cite, « utiliser sa créativité et son influence dans la lutte contre le racisme ». Et il conclut « il s'agit d'un impératif moral ».
Frédéric Roy, on a vu des marques comme Nike, Netflix ou encore Disney qui ont montré leur engagement contre le racisme suite au décès de George Floyd aux États-Unis. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui pour les marques de prendre part au débat ?
Oui, je crois vraiment pour les marques et pour les agences, parce que WPP en l'occurrence c'est le numéro un mondial de la publicité. Oui, je crois que il y a plusieurs nécessités là-dedans. Il y a le fait que ce sont des entreprises qui sont dans la société, donc elles doivent jouer le jeu, à elles de voir comment elles le font. Et puis, la publicité est également fort critiquée ces derniers temps, et le fait de montrer que la publicité, ça a aussi un rôle sociétal et social et citoyen, c'est très important, oui.
Merci Frédéric et merci Julien Rizzo.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Jean-Luc Chétrit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'Union des marques. Alors, nous en parlions sur ce plateau la semaine dernière. Les annonceurs se sont retrouvés dépourvus face à la crise du Covid-19. Certains ont brutalement arrêté leur communication et puis d'autres ont revu leur discours. Ils l'ont adapté pour délivrer un message plus engagé que publicitaire. Jean-Luc Chétrit, est-ce que la crise pousse les marques à revoir en profondeur leur approche de la pub ?
Moi, je crois que c'était une démarche qui était déjà engagée. Les marques ont bien observé les attentes nouvelles des consommateurs, citoyens, collaborateurs. Il faut répondre aux trois. Et depuis plusieurs années, ils attendent plus des marques en termes d'engagement sur des sujets de société, environnementaux, à évoquer le sujet du racisme. Donc la diversité, représenter mieux la diversité, c'était une demande. Donc finalement, la crise va accélérer la capacité, je pense, des marques à répondre à cette attente.
Et alors, pour celles qui ne se sont pas forcément exprimées pendant la crise, qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, celles qui ne se sont pas exprimées, c'est souvent parce qu'elles ne pouvaient plus s'exprimer. Elles ne pouvaient plus s'exprimer parce que leur activité était à l'arrêt, ou elles ne pouvaient plus s'exprimer parce que le message n'était plus audible. On a eu toute une période, et on y est encore d'une certaine façon, où les Français n'ont plus voulu entendre des messages commerciaux et voulaient entendre des marques, ce qui est normal, ce qu'elles faisaient pour les aider à vivre ce quotidien terrible qui a été le quotidien du confinement. Et donc on a été un discours de solution, beaucoup d'émotions et de remerciements pour tous ceux qui s'engageaient. On n'était pas dans un discours commercial, on va revenir assez naturellement dans un équilibre dans les discours, et petit à petit celles qui ne communiquaient pas vont le refaire et sont en train de réfléchir. On a un baromètre à l'Union des marques, on va vous donner juste un chiffre sur ce baromètre. On interroge les marques sur justement ce qu'elles vont faire demain, et à 80% elles nous disent la manière dont elles sont en train de construire leur message publicitaire pour la rentrée va être très différente par rapport au message précédent. Donc la dimension utile, sociale, solidaire va être renforcée dans les communications.
Il n'empêche qu'il faut vendre aussi, non ? Est-ce que en particulier maintenant, justement, parce que pendant 3 mois, rien ne s'est vendu ou fort peu de choses. Donc est-ce qu'on va quand même aussi revenir à un discours peut-être pas dur, mais disons plus traditionnel, qui est celui de la pub, qui est, à la fin, il faut aussi susciter la consommation, quoi.
Absolument. La communication, elle n'a pas d'autre objectif que de susciter la consommation. Maintenant, la consommation, c'est pas forcément la malbouffe. La consommation, c'est pas forcément synonyme de destruction de l'environnement. Et donc, on peut à la fois susciter la consommation, mais susciter des bons comportements. Et donc, il va falloir progressivement construire ces discours-là. On retrouvera des discours publicitaires promotionnels. Les Français sont quand même en attente. On est dans un monde avec des injonctions paradoxales. D'un côté, on a une crise économique qui est majeure et qui va donc impacter le pouvoir d'achat. Et de l'autre, on attend de réinventer. Le président de la République parlait d'une relance qui soit à la fois solidaire, responsable, écologique. Oui, il faut tout faire. Il faut faire en même temps en sorte que les Français puissent acheter et faire en sorte qu'on puisse réinventer un monde différent pour nos enfants. On trouvera cet équilibre, je l'espère en tout cas, et je pense que les marques y travaillent actuellement.
Alors, comment faire aujourd'hui si la communication de... Enfin, comment faire demain plutôt si la communication est différente pour les marques qui s'engagent plus, comment peuvent-elles pour ne pas être taxées d'opportunisme?
Alors voilà, ça c'est la grande question. Hein. C'est, on a eu le greenwashing. Est-ce qu'on va avoir le Covid washing ou le social washing de finalement un discours convenu et manquant de sincérité? Au fond, le sujet c'est la sincérité. Et la sincérité, le meilleur moyen de l'obtenir, c'est d'avoir un discours de la preuve. Je pense que les marques sont à un moment extrêmement important dans lequel le discours publicitaire des années 80, un discours forcément d'images et de fantasmes à certains moments, ce discours-là, aujourd'hui, a beaucoup plus de mal à passer. Il faut un discours par la preuve, il faut des engagements concrets. Et c'est le moyen d'arriver à concilier ces deux préoccupations qui sont importantes pour les marques aujourd'hui.
À l'Union des marques, vous parliez de marques soignantes.
Oui.
C'est quoi exactement des marques soignantes ?
Les marques soignantes, ce sont ces marques qui se préoccupent de leur public et essaient de leur apporter une solution. Prenez Accor. Le groupe Accor, pendant la crise, tous ses hôtels sont fermés. Qu'est-ce qu'il décide de faire, justement? Il accueille les soignants, il accueille des milliers de SDF, dans ces hôtels. Il faut le faire, ça. C'est pas une activité qui, économiquement, va représenter ce que représentait son activité précédente. Ça, c'est une marque soignante. Elle démontre son utilité, et ensuite, je pourrais citer beaucoup d'autres marques, mais elle démontre son utilité, et ensuite, elle va... dans la reprise de ses activités, être capable de continuer à se préoccuper de son environnement et de l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est les communautés, la diversité des publics et l'environnement au sens strict du terme.
Alors pour revenir sinon sur la crise hein, en ce moment, on sait que les budgets communication des marques servent souvent de variable d'ajustement. Ils sont souvent coupés pour faire des économies. Les marques prennent cette décision. Comment faire pour que cela n'arrive pas et pour que les marques considèrent la communication comme une véritable utilité?
Alors, c'est un travail d'utilité publique que d'arriver à faire ça. Nous avions démontré avec toutes les associations qui ont participé à ce sujet qu'un euro investi en publicité, c'est 7,85 € de PIB. Donc ça, c'est d'un point de vue macro. Mais moi qui ai travaillé chez Procter et Nestlé, si vous prenez Procter a continué à investir pendant la crise. Pourquoi ? Parce que Procter sait que quand on investit pendant la crise, on gagne des parts de marché quand on sort de la crise. Si vous avez vu les écrans publicitaires sur BFM et sur toutes les autres chaînes, vous avez vu beaucoup de marques, les gens ne le savent pas forcément, mais beaucoup de marques de Procter. Je cite Procter, beaucoup d'autres marques ont suivi cette voie-là, pas toutes, parce que certaines ne le pouvaient pas, mais là, il faut désormais, moi je m'adresse aux directeurs financiers, aux directeurs généraux des entreprises, ne considérez pas la publicité comme une variable d'ajustement, considérez la publicité comme une variable pour faire rebondir l'activité de votre entreprise, la relancer. C'est vrai pour les grandes entreprises, c'est vrai pour les PME.
Ça veut dire que les marques ont un véritable rôle à jouer dans la reprise économique?
Mais il est essentiel. Il n'a pas été reconnu par les pouvoirs publics pour plein de raisons.
C'est un petit peu le problème, non? Pardon. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui la publicité, on l'entend beaucoup, comme une pollution.
Oui.
C'est, en tout cas, un certain nombre d'associations le disent et le gouvernement parfois l'entend. Comment est-ce qu'on peut faire pour retourner la situation?
Moi, je crois qu'on a un travail collectif à faire avec la filière de la communication présidée par Mercedes Serra. Nous allons travailler dans les mois qui viennent pour arriver à mettre sur la table toutes les informations peut-être qui n'ont pas jusque-là été suffisamment connues, comprises, sur le rôle de la publicité dans le changement des comportements. Si on va sur le sujet au-delà de la pollution, si on regarde, mais on pourrait d'ailleurs, commençons par la pollution, regardez ce que fait Renault. Renault investit 10% de son budget publicitaire sur Zoé. Et je crois que ça ne représente que 1% des activités de Renault. Donc, Renault investit 10 fois plus que son budget publicitaire sur un véhicule électrique. Les marques, elles ont commencé le mouvement. La transition écologique, elle est menée par les marques et la publicité peut la conduire. L'interdiction qui suit en général le terme de pollution. Quand on dit la publicité, ça pollue, en général, les associations, plusieurs, se sont réunies et nous disent toutes, interdisez la publicité. Eh bien, interdire la publicité, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire pour arriver à changer les comportements. Imaginez combien il faudrait de milliards de budget public pour aider les Français à adopter de nouveaux comportements. La publicité, c'est 30 milliards. La communication, c'est 30 milliards en France. C'est 30 milliards si on les réoriente vers l'encouragement à des pratiques encore plus éco-responsables. Eh bien, on aura beaucoup plus d'efficacité que des campagnes publiques.
Merci Jean-Luc Chétrit d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de l'Union des marques.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et nous accueillons Charlotte Bricard de la rédaction de CB News. Bonjour Charlotte.
Bonjour Marie.
Charlotte, vous nous présentez aujourd'hui la nouvelle campagne de diesel.
Oui. Alors, petite parenthèse peut-être d'introduction. Si vous suivez les aventures de Bob l'éponge, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en plein mois des fiertés, puisque la chaîne Nickelodeon a profité de ce mois un peu particulier pour annoncer via Twitter que le héros de l'un de ses dessins animés les plus populaires était un allié de la communauté LGBTQ. Une demi-surprise pour ceux qui suivent les aventures de ce petit héros spongieux, tant les relations qu'il entretenait avec son meilleur ami Étoile de Mer étaient...
proches.
Voilà, sujet à politique. Bref, tout ça pour dire que côté annonceur, c'est également sans surprise que l'on retrouve parmi les marques engagées auprès de cette communauté diesel, coutumier du fait. Sans surprise, mais non sans émotion, car le nouveau spot de la marque, baptisé Francesca, est loin de laisser indifférent. On y suit pendant près de 2 minutes la mue progressive d'un jeune transgenre sur l'air mythique de In the Pines, qu'on connaît en publicité grâce à un spot cultissime pour les barres chocolatées Mars.
My Girl, c'est ça ?
Exactement. My Girl, en 1995. Souvenez-vous, un jeune homme pleurait sa dulcinée après qu'elle l'a probablement quitté et enfourchait virilement sa moto pour aller chercher la paix dans un monastère, un projet qu'il abandonnait devant la porte du dieu-dit après avoir cédé au péché de gourmandise et croqué dans sa barre Mars.
Et ça repart.
Et ça repart pour un tour 15 ans plus tard. Mais le refrain « My girl, my girl » prend ici un tout autre sens et devient à lui seul tout un symbole. Puisque dans ce scénario, imaginé pour Diesel par son agence Publicis Italia, la jeune Francesca poursuit son dessin jusqu'au bout, elle, et finit par troquer, non sans surprise, son jean Diesel contre l'habit des religieuses qu'elle rejoint au couvent. Au-delà d'une simple transition et au-delà du qu'en dira-t-on, un spot militant, pour la quête de soi et un superbe opus qui assied la stratégie globale de communication de l'annonceur dont la signature est For Successful Living, qu'on pourrait traduire par Pour une vie épanouie. Un socle solide, inébranlé depuis 91, largement nourri à la publicité, elle-même largement saupoudrée d'humour, d'autodérision, d'irrévérence et d'un brin de provocation, hein, militant depuis quelques temps, notamment pour l'acceptation de toutes les différences. C'était déjà le cas avec le précédent très remarqué Go with the Flow, réalisé par François Rosselet, à qui l'on doit ce superbe opus, qui sort d'autant plus du lot que le lot n'est pas gros.
Le lot ? Quel lot ?
Oui, le lot des marques, beaucoup moins nombreuses et généreuses que d'accoutumer à soutenir la communauté LGBTQ. À cette occasion, à en croire les agences médias américaines qui expliquent ce peu d'engouement par le fait que les marques sont plus à la recherche de campagnes éco-responsables au long cours que l'opération calendaire, peut-être un peu plus opportuniste. Cela dit, cela reste étonnant, puisque chacun s'accorde à parier plus que jamais sur les marques engagées. Vous en parliez.
Merci Charlotte Bricard pour cet édito.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et notre Zoom du jour est consacré à la reprise des productions publicitaires. Et pour en parler, nous accueillons Florence Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice chez Caviar Paris. Vous êtes aussi présidente de l'APFP, l'Alliance des producteurs de films publicitaires. Florence Jacob, aujourd'hui, où en est-on plus d'un mois après le déconfinement? Est-ce que les tournages publicitaires ont repris?
Les tournages publicitaires ont repris, effectivement, depuis le 11 mai. Il y a même eu des tournages pendant la période du confinement, mais c'était des tout petits tournages sur plateau avec 5 personnes. Aujourd'hui, le spectre s'est ouvert à des tournages avec 50 personnes environ. On a œuvré pendant le Covid, pendant la période de confinement, pour mettre en place tous les outils pour cette relance. On a mis en œuvre le protocole des 84 points à appliquer sur les plateaux de tournage. Ensuite,
Pour revenir sur ces 84 points, donc c'est un document commun que vous avez publié le mois dernier avec l'AACC, l'Association des agences conseils en communication. C'est une première. Et donc, ce sont 84 recommandations post-Covid, 19 pour les tournages et prises de vue. Alors, dites-nous-en un peu plus, du coup, de ces recommandations.
C'était effectivement un document qui a été mis en place dans toute l'Europe, dans tout le monde entier, en fait. C'était qui répond à la sécurisation de nos équipes, parce qu'en tant que patron, on est responsable des équipes qu'on emploie sur les tournages. Donc, on se doit de les protéger quand ils viennent sur un plateau. Donc, ce sont des mesures sur lesquelles on a travaillé avec la CC, mais non seulement avec le ministère de la Santé, pour qu'ils soient, et avec des médecins, pour qu'ils soient en adéquation avec ce qui se passe pendant cette pandémie. Donc, ce sont des points qui peuvent sembler très lourds dans l'application, mais j'ai envie de dire les producteurs sont des gens qui sont extrêmement experts en adaptation. Ils savent s'adapter à des contraintes quand ils partent dans des pays étrangers ou en France. Ils s'adaptent à des concepts différents tous les jours et les premiers tournages se passent extrêmement bien. Oui. Extrêmement bien. Tout est assez fluide. Le protocole est appliqué. Voilà.
Mais du coup, pour les scripts, pour les histoires, je veux dire, ça va, il faut en tenir compte aussi, parce qu'on peut plus trop s'embrasser, se prendre dans les bras.
Absolument. Absolument. Non, évidemment, il a dû avoir, on a parlé pendant les trois mois d'une adaptation des scripts. Il se trouve que c'était un discours de face. Beaucoup de scripts avaient été testés avant Covid, reviennent sur la table après. On sent que la création n'a pas bougé. Les budgets ont été coupés de moitié, oui. Mais la création n'a pas vraiment bougé. Donc, on doit une fois de plus s'adapter à une contrainte non seulement sanitaire, mais budgétaire et créative. Mais j'ai envie de dire, on fait notre possible, les producteurs indépendants pour le faire.
Et c'est possible de faire une publicité comme avant, quand on a 84 recommandations à respecter?
Écoutez, ce ne sont pas les mêmes tournages qu'avant. Ça ne sera jamais comme avant tant que le Covid existera, parce qu'on n'a pas le droit de manger les uns à côté des autres, on n'a pas le droit de se toucher. Donc, les pubs Durex et autres sont un peu différentes. mais j'ai envie de dire, oui, on s'adapte. Y a beaucoup de tournages qui, de plus en plus importants qui sont en train de se mettre en place, surtout pour juillet. Et on y arrive. Mmh. On y arrive, on sait faire.
Alors, il y a un sujet qui est bien pré-Covid, qui agite la production publicitaire française, qui est la relocalisation des films en France. On est dans une période où on en parle beaucoup et pas seulement des films de relocalisation. Est-ce que il y a quelques chances qu'en revenant, donc en ressortant de chez nous, en se déconfinant, on le fasse plutôt près de chez nous, ou à nouveau les films vont-ils repartir ailleurs?
On en a beaucoup parlé pendant le confinement, parce que nous, en tant que syndicat, on pense que la relance économique de notre secteur nécessite notamment une relocalisation pour remettre en marche les intermittents qui ont énormément souffert par la crise. Les aides étaient moins importantes pour eux. De remettre en marche nos fournisseurs, mais aussi réactiver des hôtels, des restaurants, parce qu'un plateau, un tournage, c'est beaucoup d'équipes. Ça peut aller jusqu'à 120 personnes. Donc, quand on parle de relocalisation, nous on a fait un estimatif. On ne peut pas relocaliser tous les films, mais il y a une typologie de films qui est un film moyen, comédie, français, avec un casting français, où on a estimé qu'on pourrait faire une création d'à peu près 20 000 emplois, 250 millions d'euros à rapatrier sur le territoire français. Moi, je pense qu'avec les aides qu'on a reçues par l'État, on a été un des pays les plus aidés entre le PGE, l'allègement des taxes, mais aussi le chômage partiel, on se doit un petit peu de réinjecter dans notre économie. Maintenant, c'est une recommandation du syndicat d'essayer d'activer ça. Certains annonceurs, mais pas tous, nous suivent. Il y a une antinomie là-dedans, c'était que les premiers tournages des plus gros annonceurs sont partis vers l'étranger immédiatement. D'accord. Parce que cette crise, les annonceurs ont perdu tellement d'argent, comme nous, hein, d'ailleurs, nous les indépendants, petites sociétés indépendantes qu'on est, on en a perdu autant, voire plus. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que...
Vous pensez que les aides mises en place aujourd'hui sont suffisantes?
Pas pour tous. Soyons clairs, on a été 62% et l'étude de Kind qui a été extrêmement, qui a mis tous les chiffres, le bureau de conseil en images créé par Titamio ici et puis Julien Pasquier, mon prédécesseur, on fait une étude qui a vraiment montré à quel point notre métier, nos sociétés étaient impactées. On a eu une mise à l'arrêt immédiate, on a été parmi les premières impactées parce que toutes nos équipes étaient à l'étranger en tournage, on a dû rapatrier tout le monde. On parle quand même de 58% des productions annulées, presque 500 films qui ont été impactés directement. Donc aujourd'hui, il y a des sociétés qui n'avaient pas la trésorerie ou même avec l'aide, l'impact va être visible en fin d'année. Mais on va se battre parce que vous savez également que il y a un bras de comment dire en français, un bras de force, un bras de fer entre les prods intégrés et les prods oui. indépendantes, qu'aujourd'hui beaucoup de grands groupes ont appelé à intégrer un maximum de films. Il se trouve que nous sommes dépendants des films en circulation et des appels d'offres transparentes. Donc nous, on va œuvrer pour que cela reste parce qu'on pense pas, on croit pas au monopole. Donc on va se battre parce qu'on sait se battre et c'est nécessaire plus que jamais parce que on n'a plus rien à perdre.
Parce qu'on est supposément dans une période plus bienveillante, en tout cas, notamment, justement, on parlait tout à l'heure des films pendant le Covid, les marques ont beaucoup communiqué sur ce qu'elles faisaient, sur la manière dont elles remerciaient les soignants, par exemple, sur leur engagement, etc. Manifestement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas vraiment le cas derrière le rideau, quoi, derrière la scène.
Il y a eu des très beaux discours dans la presse, je dois dire, ça donnait espoir pour un monde meilleur. On y a tous cru. Maintenant, les coulisses sont beaucoup moins bienveillantes. Mmh. On va dire la compétition est plus violente que jamais. Mmh. On a mis en place une lettre de brief pour amener plus de transparence dans le secteur.
La mise en place donc avec l'Union des marques et la SCC.
Absolument. On a beaucoup travaillé ensemble et je tiens à dire que la collaboration a été extrêmement agréable, du jamais vu.
Pour expliquer un peu plus, du coup, c'est pour qu'il y ait plus de transparence entre les différents acteurs, entre annonceurs, agences, sociétés de production.
Bah justement, oui, parce que souvent, lorsqu'on se trouvait dans des compétitions, on n'était pas, c'était assez obscur qui était vraiment en compète sur ces sujets.
Il fallait donc un document comme ça aujourd'hui.
Il fallait aujourd'hui, en France en tout cas, avec la. On se connaît maintenant assez bien, les Français, où on est ce sang latin fait qu'on n'était pas toujours très clair sur qui y avait dans la compète. On apprenait très tardivement qu'il y avait quand même la production intégrée qui était dans la compétition, ou alors 5 autres réalisateurs, alors que normalement c'est 3 réalisateurs sur une compétition. Dans les derniers mois, en novembre, on s'est retrouvés sur des marques majeures à être beaucoup plus que 3. Donc on s'est tous mis d'accord d'abord entre producteurs, que ça ne peut plus durer parce que les coûts d'une compétition ne sont pas rémunérés en France. C'est-à-dire pour nous, pour nos sociétés, c'est une dépense environ entre 120 et parfois 250 000 euros pour des structures en fonction de la taille de la structure et du nombre de compétitions. Donc c'est très important. Et en temps de crise, on ne peut plus se permettre ces dépenses. Donc il faut que ce soit clair, qu'on sait qui y a dedans, on sait qui on a en face et surtout, on connaît la demande de l'annonceur. Qu'est-ce qu'il veut provoqué avec cette campagne, qui sont
plus de transparence.
Plus de transparence, voilà.
Merci Florence Jacob d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'APFP, l'Alliance des producteurs de films publicitaires. Merci également à Frédéric Roy d'avoir été là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com. Très bonne journée à tous sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business. Yeah.